Tous les lundis de 17h à 18h, débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4. Parlons sport. Parlons sport, une émission animée par Gilles Bombard.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlons Sport, l'émission sportive de Marmite FM 88.4. On est là comme chaque lundi en direct de 17h à 18h pour une heure de débat, une heure de sport local. Sont présents dans les studios aujourd'hui, vêtus d'une cape, épée à la main. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je ? C'est Nouradine de Bergerac. Salut Nouradine.
Ça va tout à fait avec la longueur de mon nez, en tout cas. Salut à tous les auditeurs, toutes les auditrices et à notre invité.
Notre invité manie beaucoup mieux les armes
que
de
moi, c'est sûr.
Et notamment le fleuret, maître d'armes au sein de l'Escrime Club de Trappes, mais plus pour très longtemps. On va en parler avec lui tout au long de l'émission. C'est Julien Camus. Bonjour Julien.
Bonjour.
Émission de combat, émission de duel aujourd'hui. Nouradine contre tout le reste du monde, comme d'habitude, comme à chaque émission. C'est parti, on lance le sommaire. Dans quelques instants, dans Parlons Sport, nous allons revenir sur les événements phares du week-end. La France s'est imposée au Luxembourg samedi dernier. On parle de football, bien sûr, hein, car tous les autres jours de l'année, c'est le Luxembourg qui met à terre notre économie. L'équipe de France promise un bel avenir si l'on en croit les observateurs. On en parle dans quelques instants. Quelques mots également sur l'épilogue spectaculaire de la fusion Racing Stade Français en top 14, le rugby. Avec les deux propriétaires qui ont décidé de faire marche arrière. Autre sport, nous sommes en année post-olympique et nous n'avons pas encore parlé d'escrime cette saison. Eh bien, ce sera chose faite avec Julien Camus dans quelques instants. Maître d'armes au sein de l'escrime club de Trappes en interview en dernière partie d'émission. Ça sera juste après les infos sportives locales de Nouradine. Allez, tout de suite, retour sur l'actualité sportive du week-end. Bien messieurs, je vous propose qu'on parle tout d'abord de rugby et de cette annonce spectaculaire voilà, dont on avait parlé ici il y a quelques temps, la fusion Racing Stade Français. On parle de rugby et de top 14. Ça avait surpris tout le monde, cette annonce, hein, les deux propriétaires qui avaient bien mené leur petite discussion en sous-marin, comme on dit. Et une grève des joueurs du Stade Français a eu lieu. Il y a eu aussi une levée de bouclier au sein du club francilien, le club de Jackie Lorenzetti, le Racing, pour au final arriver à quelque chose d'aussi surprenant, c'est-à-dire on arrête le projet. Le projet de fusion n'aura donc pas lieu. Je pense hein, que les supporters du Stade Français en sont ravis, ceux du Racing aussi. Le mariage était impossible entre ces deux clubs. Oui, mais voilà, le propriétaire du Stade Français a d'ores et déjà annoncé qu'il n'allait pas recapitaliser hein, et qu'il n'allait pas combler les pertes pour cette année sportive pour le Stade Français. Et donc, une possible relégation administrative pour le Stade Français s'il n'arrive pas à trouver de repreneur pour la saison prochaine. Julien Camus, est-ce que vous avez suivi cette affaire?
J'ai suivi cette affaire de fusion, ou plutôt de confusion, on va dire, sans jeu de mots. On arrive dans le gros problème du sport du moment, quoi. C'est l'argent, et encore plus dans le rugby où il commence à y avoir beaucoup d'argent. Est-ce que l'argent doit prendre le pas sur l'histoire même du sport? Ou dans le rugby, on sait qu'ils sont très proches de leur valeur, entre guillemets. Stade Français Racing, c'est quand même, je pense que même les tout petits, quand ils arrivent dans leur club, que ce soit au Racing ou au Stade Français, tout petits, ils jouent contre le Racing et il faut absolument battre le Racing. Et là, une fusion entre les deux, c'était incroyable. Maintenant, le problème, il est pour le Stade Français, il est est-ce qu'on préfère repartir peut-être dans une division inférieure et remonter un club ou s'allier avec le grand ennemi de toujours, quoi. Et malheureusement, il y a des hommes d'affaires qui ont mis de l'argent dans ce club et qui, eux, veulent récupérer de l'argent et qui, eux, voient la fusion comme un moyen de récupérer de l'argent ou avoir un minimum de pertes. Et des gens qui aiment le Stade Français et qui, eux, préfèrent repartir de zéro, reconstruire un club sur les mêmes idées qu'est le Stade français, quoi. Et c'est le problème du sport et peut-être de la société d'aujourd'hui, quoi.
Bon, avec la communication qui aurait été catastrophique quand même, hein, quand Jackie Lorenzetti dit 45 plus 45, ça fait 45.
Non, mais ça, c'est incroyable. Enfin, en plus, ce sont des gens qui, je pense, sont des capitaines d'industrie, ce qu'on appelle les capitaines d'industrie. C'est-à-dire qu'ils ont des sociétés avec des gens derrière pour les aider. Je pense qu'ils auraient pu un peu en discuter avant et avoir un plan de com un peu plus réaliste, quoi. Ils étaient quand ils ont présenté le projet, ils étaient même pas d'accord, ils ne disaient même pas la même chose. Ouais. C'était incroyable, quoi. On a l'impression que le matin à 10h, ils avaient décidé de ça et qu'à 15h, ils annonçaient à tout le monde, quoi.
Alors, je vais directement élargir la question, Julien Camus. Est-ce qu'on a à un niveau local aussi ces réflexions-là, des réflexions pour mutualiser les moyens, pour fusionner les structures sur un territoire déterminé, afin de faire en sorte de faire émerger une sorte de structure sportive qui soit performante ou afin de la stabiliser?
Oui, oui, et on a exactement les mêmes problèmes. C'est-à-dire que nous, à Trappes, on fonctionne avec le club de Montigny-le-Bretonneux. C'est-à-dire que on a mutualisé les maîtres d'armes. C'est-à-dire que Jean-Charles Bessel, le collègue qui travaille avec moi, et Ayoub Ferdjani, les deux maîtres d'armes du club, fonctionnent sur Montigny, sur Elancourt et sur Trappes. Et après, on a, pour pouvoir présenter des équipes dans tous les championnats où il faut former des arbitres et ainsi de suite, on a tout le monde est regroupé sous le nom de Escrime Club de Trappes, avec une école d'escrime à Montigny, une école d'escrime à Elancourt et tout. Sauf qu'il y a un moment, on a voulu s'appeler Saint-Quentin-en-Yvelines. Le club de Saint-Quentin-en-Yvelines essayait de regrouper. Et on est tombé face à des problèmes politiques, c'est-à-dire qu'on arrive à des moments où Trappes, c'est Trappes, et les gens de Montigny veulent pas être associés. Là, c'est pire, là, on est en train de faire des survêtements pour les clubs. On a quand même reçu des mails de parents nous disant « il est hors de question que mes enfants portent un survêtement marqué Trappes parce que ça ne va pas avec les valeurs que nous voulons leur inculquer ». Donc on est monté au créneau. Voilà, on s'est dit, mais
vous vouliez mettre que le club de Trappes devienne Trappes Saint-Quentin-en-Yvelines ou Saint-Quentin-en-Yvelines tout court?
En fait, on voulait, pour de l'aide au niveau, quand on a vu qu'on était en première division et ça, qu'on avait besoin de moyens, il fallait qu'on soit sur un club on s'appelle déjà Trappes Saint-Quentin-en-Yvelines. Et on voulait monter une grosse structure qui regroupe tout le monde, avec les clubs qui étaient des écoles d'escrime, les clubs de Trappes qui étaient une école d'escrime, l'école de Montigny, tout ça, garder les clubs, mais monter une super structure pour l'équipe de N1 pour pouvoir être au niveau et pouvoir se maintenir, monter une super structure Saint-Quentin-en-Yvelines. Et là, on est arrivé devant d'énormes problème de mise en moyen, parce que les gens qui allait récupérer les lauriers, quoi. Alors que nous, on voulait juste que ça nous aurait peut-être permis de garder une Jérôme Mpanjanga qui maintenant est médaillée au championnat d'Europe senior, aider plein de jeunes à se développer. Là, on a des petits jeunes ce week-end, donc on était à Grenoble avec les seniors, mais les moins de 14 ans étaient en national à Hénin-Beaumont, et on en a un qui fait un top 20 sur 290 tireurs, et il fait top 20. Ça nous permet de les aider, ça devient de plus en plus dur de les aider. Donc on s'était dit, avec cette super structure, on va pouvoir aider nos jeunes. Et sauf qu'on est arrivé devant plein de problèmes, savoir mais qui va payer, comment ça se passe, qui va prendre les trucs. Donc on est resté sur cette structure où, vu qu'on est aidé par la mairie de Trappes, sur le club de Trappes, on est très bien aidé, où tout reste Trappes. L'école d'escrime de Montigny-le-Bretonneux reste l'école d'escrime de Montigny-le-Bretonneux. Et on fonctionne entre nous, vu que c'est tout le monde, ce sont les mêmes maîtres d'armes, on fonctionne tous ensemble. Comme le club de Guyancourt, pendant les vacances, peut venir s'entraîner à la salle de Trappes, eux ils font du sable. Mais voilà, on voulait récupérer tous ces clubs, former plus qu'une seule grosse entité, avec du sable, de l'épée de sable, et avoir un plus gros pouvoir au niveau fédéral aussi.
Ça ne se fera pas.
Non, on est sur Saint-Quentin-en-Yvelines avec un club de Trappes où il y a 86 licenciés, un club de Montigny-le-Bretonneux où il y a 50 licenciés, un club de Guyancourt où il y a 90 licenciés. On est à 3 clubs à moins de 100 licenciés. Si on se regroupait tous, on serait à un club de plus de 200 licenciés, ce qui en escrime est énorme, chose qu'on ne peut pas faire.
Bien, bon, alors si on comprend bien, il y a à la fois la nécessité de concilier la logique économique et concilier ces valeurs qui sont là pour le coup portées par les licenciés, ou plutôt les porte-parole de ces licenciés.
Des valeurs qui sont contre le sport, quoi. C'est-à-dire que nous, on a toujours fonctionné. Voilà, là, on a toujours fonctionné avec le vivre tous ensemble, quoi. Le sport, c'est vivre tous ensemble. C'est se retrouver. Enfin, voilà, ce week-end, on était à Grenoble avec les seniors. Deux jours de compétition. Le samedi soir, à la fin de la compétition, tout le monde se retrouve dans le même hôtel. Tout le monde va boire un coup ensemble. Et le lendemain, on repart sur la compétition. On se rend compte, on se crie dessus. Enfin, voilà, c'est un sport de combat qu'on fait. Mais il y a des valeurs de vivre tous ensemble qui sont en train d'être perdus au niveau du sport, mais au niveau de la société tout court.
Parce qu'en plus, pour le coup, là, pendant les combats, pendant les compétitions, bon, on sait que dans le football, par exemple, il y a dans l'agglomération des clubs qui ne veulent pas être regroupés dans d'autres unions d'associations parce que la couleur du maillot ne convient pas. Mais là, dans les compétitions d'escrime, bon, c'est la même tunique, quoi. Hein,
c'est
la même couleur.
C'est dit avec beaucoup de tact.
Pardon.
La couleur du maillot ne convient pas, c'est dit avec beaucoup de tact.
Oui, bon, après, enfin, c'est ça fait partie des arguments qu'on peut entendre des fois des personnes qui viennent ici au micro et nous dire ça. Hein. Bon, après, voilà, sur tout ce qui concerne les raisons profondes de cette absence d'association.
Il y a des raisons diverses, hein, comme le disait à l'instant Julien Camus. Il y a des parents qui, à mon avis, bah après, ça, c'est la société française qui, à mon avis, dans son ensemble, est déjà assez fracturée et on a du mal. On n'est pas loin, pourtant. Montigny-le-Bretonneux, c'est pas très loin d'ici, mais je pense qu'il y a, comme en général, les quartiers populaires jouissent d'une image très négative auprès de ceux qui sont à l'extérieur. Donc, moi, ça ne m'étonne même pas qu'il y ait des parents qui ne veulent pas associer soit leur image, soit leur enfant à cette rencontrer d'autres trappistes, alors que c'est un peu bête dans l'absolu, puisque ce sont des jeunes qui vont rencontrer toute l'année en compétition ou avec lesquels ils vont se déplacer.
Mais c'est même pire, c'est que nous,
mêmes maîtres d'armes.
Ouais, mais c'est ça. Et les parents, des fois, on fait des équipes, on mixe déjà les équipes. Oh, ouais. Donc, c'est-à-dire que les équipes de jeunes, c'est des trappistes et des inimontins. Tout le monde fonctionne ensemble. On part tous en minibus ensemble. Les chambres, quand on est à l'hôtel, on se fiche de savoir s'il est de Montigny ou de Trappes, quoi.
Mais l'image écrase tout.
Ah ouais. Mais l'image du moment écrase tout. Bah, c'est un grand débat, je pense qu'on n'aurait pas assez d'une heure pour en discuter. Mais voilà, et l'histoire de cette fusion entre le Racing et le Stade français, c'est aussi ce problème de est-ce que le super pouvoir, l'argent et les super capitaines d'industrie qui investissent, et je comprends, ils investissent, il faut des investisseurs dans le sport, il y a un moment on a peut-être aussi envie d'avoir un retour sur investissement, mais est-ce qu'on peut tout écraser pour récupérer son argent, quoi?
Bien, alors que penser, on va changer de sport, hein, que penser maintenant de l'image là que nous reflète l'équipe de France de football? Il y a eu l'Euro 2016 hein, qui a permis de redonner un peu de sympathie hein, provenant du public pour cette équipe de France. L'équipe de France donc qui est allée gagner au Luxembourg dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2018, hein, score 3-1. Et on parle beaucoup de cette équipe de France qui commence à faire émerger certains jeunes talents qui font déjà l'objet de grandes spéculations sur le marché des transferts, la valeur marchande d'Adrien Rabiot, de Kylian Mbappé, entre autres.
On parle encore de valeur marchande pour des joueurs qui, certes, sont très prometteurs, mais qui n'ont encore, pour le moment, rien prouvé. Donc, moi, je suis d'avis, comme certains commentateurs, hein, alors là, 99% des commentateurs, actuellement, ils s'enflamment, surtout sur Kylian Mbappé, mais déjà, ce sont des joueurs qui, à mon avis, il faut protéger, car certes, talentueux, mais combien de joueurs talentueux, on peut faire une liste, on pourrait faire deux émissions sur tous les talents, tous les futurs Zidane. Ça pourrait être la question de la prochaine émission. Tous les futurs Zidane, qui ne sont pas devenus des Zidane. Il y en a beaucoup. Hein.
Oui, bon, après, il faut mettre ça en lien aussi avec la logique économique et financière que doivent suivre certains médias. On a dit de protéger. Ben oui, mais quand tu es média, tu ne peux pas protéger. Quand tu es média, tu dois déjà vendre des journaux. Oui, et donc, vendre des journaux, ça implique de faire des articles sur les futurs Zidane, les futurs Thierry Henry, Kylian Mbappé, etc.
Bon, soit les lecteurs sont très bêtes. Et ils se font à chaque fois avoir sur des futurs Zidane ou des futurs Thierry Henry. parce qu'on nous en a vendu, soit ils sont assez intelligents pour comprendre que quand même, le joueur, ok, il est, c'est un crack, comme dirait Thierry Henry, en parlant par exemple de Mbappé, mais il faut savoir raison garder quand même pour un joueur qui a 18 ans, qui est certes le deuxième plus jeune joueur à avoir évolué, à avoir une sélection depuis 1955 ou 1956, je ne sais plus, c'est le deuxième seulement, ok, qui est convoité par les plus grands clubs, ok, mais pour l'instant, c'est un joueur de 18 ans, qui a fait un bon match contre Manchester City, ok, et qui, voilà, qui est talentueux. Mais on va s'enflammer encore, je sais pas.
C'est de la télé-réalité sportive,
ouais,
en fait. On consomme sur le moment. Après, moi, cette équipe de France, je la trouve rafraîchissante, quoi. Les trouve sympa.
Ça, je suis d'accord.
Là, on parlait de communication tout à l'heure. Je trouve qu'ils sont super forts. Un gars comme Griezmann, c'est un super bon communicant. Il va aller jouer avec les réseaux du moment, les Instagram, les Snapchat, les trucs. Là, j'ai vu qu'il y avait la dernière vidéo où il chante du début de soirée déguisé en lapin, je crois, ou je sais pas trop quoi, sur son dernier truc. Ça fait le buzz. Le gars passe pour un mec gentil, quoi. Il met des messages pour sa femme. Voilà. Ça fait du bien d'avoir une équipe de France comme ça. Après, c'est vrai que ces jeunes-là, il va falloir les protéger. On sait très bien que sur tout le groupe, malheureusement, il y en a un ou deux qui vont sortir, et puis il y en a combien qui vont retourner dans des petits clubs qui vont mal finir ou qui partiront pour l'argent. On peut parler d'un Lassane Diarra, voilà, quel gâchis ce
ouais,
gars.
Quel gâchis, effectivement.
Enfin, voilà, ils sont... Je pense que maintenant, Didier Deschamps a raison de les utiliser maintenant. Il faut les laisser jouer. Il va créer son groupe, il a besoin de son groupe. Malheureusement, seul le temps nous dira ce qui va se passer, mais je la trouve... En fait, je pense que maintenant, les footballeurs sont relativement bien entourés par des communicants. Ils savent qu'ils ont une vraie valeur marchande. Avec l'affaire Benzema, ils ont vu qu'ils avaient beaucoup à perdre. Et je pense que maintenant, ils sont entourés de sociétés, d'événementiel et de communication qui fait très très bien les choses et qui fait qu'il y aura moins de dérapages qu'avant.
Alors, je me permettrai quand même de dire que la communication de Ben Arfa hier était un peu too much, hein.
J'ai pas vu cette
sur les réseaux sociaux, sur les vidéos où
il est pas...
Ce message, c'est il dit,
oui, voilà.
Je veux jouer. Et ici, quand il dit ça, bon, il y a des scènes où il marche le long d'un quai. Enfin, on se croirait dans une série, quoi.
On voit bien que enfin, c'est pas Atem Ben Arfa qui va préparer ça. On voit bien que derrière, il y a des gens qui préparent une communication, qui préparent des mini-scènes, quoi. C'est, voilà. Donc, je pense qu'ils sont entourés. Après, il y a, comme dans tout métier, il y a des bons et il y a des moins bons. Moi, je trouve par exemple que Griezmann est très très fort sur sa communication. Ben Arfa, plus ou moins. Après, on est d'accord ou pas d'accord, mais un gars comme Kylian Mbappé, dans tout ce qu'il dit, c'est très raisonné quand même pour un gamin de 18 ans. Pour un jeune de 18 ans. Rabiot, il y a eu des gros problèmes de communication avec sa mère. Depuis un moment, on n'entend plus du tout parler. Sa mère ne parle plus du tout. Il a pris les choses en main. Il y a quand même eu pas mal d'histoires avec le PSG. Voilà, là on voit qu'il y a la communication de l'agent de Verratti qui met beaucoup de pression sur le PSG. Je pense que là Verratti a pris les devants et a décidé de parler en lui disant bon écoute, on va peut-être calmer un peu les choses, arrêtons, parce que
il a intérêt à calmer les choses.
Ouais. Voilà, donc je pense que c'est devenu, enfin ils sont vraiment entourés maintenant par des sociétés de communication plus ou moins bonnes après, mais je trouve, encore une fois, je trouve cette équipe de France vraiment rafraîchissante, quoi. Elle fait du bien, elle joue. Voilà, il y a des mecs comme Giroud qui ont l'air de mecs sympas. Voilà, on faut pas oublier qu'il a aussi fait des bêtises, mais on a plus tendance à oublier parce que c'est un bon gars, quoi. C'est le bon gars.
C'est le bon.
Ah, non seulement il a fait des bêtises, mais en plus il n'a aucun talent devant le but, c'est incroyable.
C'est surtout ça. Non, talent.
Bon, il a quand même mis un doublé Olivier Giroud. Alors si on compare cette équipe de France là qui bénéficie quand même d'un turnover assez conséquent, parce que sur la feuille de match on retrouve les deux latéraux de Monaco, Sidibé et Mendy. On retrouve aussi le jeune Dembélé, hein, qui joue à Dortmund. Qui était titulaire hier, et sur le banc des remplaçants, on avait encore notamment et des monégasques, hein, Bakayoko, Lemar, Mbappé qui est rentré.
Mendy.
Rabiot, le parisien. Mendy, ouais, qui était titulaire, hein, les deux latéraux de Monaco. Tolisso, le lyonnais. Kimpembe, qui était blessé, mais il était dans la liste initiale. Donc, on a quand même une équipe de France qui s'est renouvelée par rapport à un résultat positif finaliste de l'Euro 2016. Est-ce que cette équipe de France, d'un point de vue strictement sportif, vous la trouvez tout simplement plus performante et une équipe de France sur laquelle on pourrait fonder des espoirs pour la Coupe du Monde, c'est déjà dans un an?
Moi, je la trouve performante et ils arrivent à sortir voilà, Luxembourg, c'était pas un match super entraînant, quoi. Mm-hmm. C'était hyper compliqué. À la fin, ils gagnent 3-1, ils ont joué. Combien de fois on a vu des équipes de France aller faire sur des 0-0,
un partout,
des 1 partout à l'arrache, voilà, exactement. Et en fait, on a l'impression qu'ils sont hyper sereins. Ils mettent le but, derrière il y a le penalty, il y a un partout, mais cette équipe, elle dégage une certaine force. Enfin, je sais pas, mais on n'était pas inquiet, quoi. On savait qu'à un moment, il allait se passer un petit truc qui fait qu'ils allaient marquer, et puis voilà, c'est ce qui s'est passé. Ils dégagent une vraie sérénité qui est insufflée, à mon avis, par l'entraîneur, quoi. Mmh. C'est quelqu'un qui est très posé, très calme, qui répond et qui a une vraie force. Je pense que l'image de Deschamps, qui a aussi tout gagné, qui a été champion du monde, champion d'Europe, gagné la Champions League et tout, ça donne une valeur à cette équipe de France. C'est-à-dire que les journalistes disent « Oui, Didier Deschamps, en tant que joueur, a tout gagné. Didier Deschamps arrivé a fait gagner l'équipe de France à des moments aussi difficiles. Donc, cette équipe arrivera toujours à s'en sortir. Mmh. » Et les gars se disent « De toute façon, on arrivera toujours à s'en sortir. » Donc, il y a un moment, sur le terrain, il se passe ce qu'on a envie de croire, quoi. C'est-à-dire que quand on est capable de donner à un groupe l'idée que ouais, le match va être difficile, mais vous inquiétez pas, il y a un moment où ça va se débloquer, bah, comme par hasard il y a un moment où ça se débloque, quoi. Donc c'est moi je la trouve meilleure là-dessus, quoi. Elle est sereine, elle est pas inquiète, elle sait que ça va se passer, il y a moins de panique, donc vu qu'il y a moins de panique c'est plus fluide et donc les occasions se créent et ça finit par marquer et les situations se débloquent, quoi.
Un petit manque d'expérience, moi je dirais, dans cette équipe, mais après c'est tout à fait normal, hein. Ce que disait Julien, c'est que ce sont des jeunes joueurs. C'est rafraîchissant, je suis d'accord. C'est sûr que ça nous change des images précédentes de l'équipe de France ou des équipes de France qu'on a pu avoir ces dernières années. En termes de communication, ils sont plutôt bons. Je pense qu'ils sont appréciés par le public français. Et il va peut-être manquer. Il y a un taulier derrière. Il y a deux tauliers derrière, on va dire, hein, Loris et Koscielny, qui sont plutôt des joueurs d'expérience. Mais ce qui va m'inquiéter, moi, pour les années à venir, c'est le manque peut-être de leader dans cette équipe. On parlait, tu vas rigoler, hein, tu vas rigoler, Gilles, mais on parlait de Patrice Evra qui était un peu le leader de vestiaire et qui était capable de motiver les troupes dans le vestiaire. Mais il n'y a pas vraiment de leader. Moi, c'est ce qui m'inquiète plus dans cette équipe, même si au milieu de terrain, on a un Kanté qui est intéressant, mais qui n'est pas encore leader. Peut-être leader technique, peut-être pour le futur, mais
moi, je pense qu'un Pogba qui n'était pas là va être un vrai leader de l'équipe de France. Il n'était pas là, là il est blessé. Et je pense que c'est quelqu'un qui va vite prendre le pouvoir en équipe.
Il
ne
l'a
France.
Pas pris encore. J'ai l'impression qu'il non, reste encore que... timide sur les prises de parole.
Mais je pense qu'il restait timide parce qu'il y avait Patrice Evra et qu'il avait un énorme respect pour Patrice Evra et que Patrice Evra prenait toute la place. Je pense qu'un gars comme Pogba va revenir, va prendre la place. Après, je crois que Lloris, on n'en parle pas trop, c'est quelqu'un de très calme, mais dans le vestiaire, il a une vraie importance. Et je crois qu'il parle beaucoup, sauf que c'est quelqu'un qui n'aime pas s'épancher dans la vie de tous les jours. Et je pense que Pogba va être le vrai leader de l'équipe de France. Il est capable de le faire, il va le faire. Pour l'instant, il y a Patrice Evra qui prenait beaucoup, beaucoup de place. Et on aimait ou on n'aime pas, mais il a fait son job. Et je pense que Pogba va prendre cette place-là.
Oui,
et
puis bon, bah, les leaders, on devient leader, on n'est pas leader. Hein.
Là, tu fais ta Simone de Beauvoir.
Mais non, mais on a des joueurs comme Blaise Matuidi qui se sont... affirmer progressivement dans le vestiaire d'une grande équipe.
Ah, je suis pas d'accord du tout. Je ne vois pas du tout Blaise Matuidi comme un leader au Paris Saint-Germain, tu dis ?
Oui, il s'est installé comme taulier, Matuidi.
Oui, mais taulier et leader, c'est pas... Oh,
dans, ouais.
je vois pas moi Matuidi faire des prises de parole, haranguer
Les supporters, s'il le fait quand même à la fin de certains matchs, il prend le mégaphone et puis il parle aux supporters.
Hein. Toi tu te parles d'un ambianceur là, un ambianceur. Moi ouais, je te parle d'un Toli qui est capable d'emmener son équipe. Ce qu'on n'a pas vu par exemple, oh, bah, Barça ça va être l'exemple qu'on va pas arrêter
qu'on est leader justement. C'est quelqu'un qui a ça en lui quoi.
Après, moi je suis d'accord.
On est leader. C'est quelqu'un qui et même s'il a 20 balais, il va être capable de dire à un moment ouais les gars là c'est
on
n'importe
déconne,
quoi.
Faut y
aller. Et on est leader. Et je pense que Pogba est né leader. Il emmène tout le monde dans son sillage. Mmh. Evra est né leader. Un Blaise Matuidi est un super joueur, est un super bon, ce que nous on appelle en escrime, un super bon partenaire d'entraînement.
Tout à fait.
C'est-à-dire que c'est le mec qui va être là, qui dans une équipe va jamais nous lâcher, va toujours. Mais ça va pas être le leader de l'équipe parce que c'est pas lui qui à un moment va pousser le coup de gueule à la place de l'entraîneur sur le terrain. Voilà. Et ça peut être des joueurs un peu moins bons. Et c'est pour ça que je pense que Loris est un vrai leader. Parce que dans le vestiaire, il parle et il fait les choses, mais il n'a pas besoin de le faire en dehors parce que pour lui, ça doit rester et il dit les choses quand il a besoin. Pogba sera un leader et un leader médiatique en plus.
Bien, messieurs, bon, bah, si c'est tout pour vous, pour le football.
Et puis, pour terminer sur cette équipe de France, quand même. On a certainement la génération, je disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas s'enflammer, mais bon, par rapport à ce qu'on voit actuellement, on a certainement la génération la plus prometteuse, j'allais dire d'Europe, voire du monde. Je ne vois pas d'autres équipes qui proposent des joueurs de 18 à 22 ans qui soient aussi talentueux que les Dembélé, Adrien Rabiot, Benjamin Mendy.
Là t'es en train de nous faire le journaliste que tu critiquais toi-même tout à l'heure. Attends.
Mais je me suis pas enflammé. J'ai dit qu'on avait une génération talentueuse. J'ai pas dit qu'ils allaient.
Est-ce que tu te souviens de la génération Sinama Pongol, Anthony Le Talec?
Oh non, c'était pas pareil. Arrête, Gilles.
Attends, ben, champion du monde des moins de 17.
Champion du monde. C'est une équipe globale d'ailleurs. C'était une bonne équipe.
Tout le monde s'est enflammé sur eux. Liverpool a recruté les deux joueurs.
Liverpool.
Voilà ce qu'ils sont devenus.
Liverpool. C'est pas le Barça ou le Real qui les a pris.
Le Liverpool de
sinon,
l'époque.
Il se serait arraché ces joueurs. Non, c'est pour dire qu'en fait, les joueurs actuellement, car la génération que tu cites, ceux dont on parle maintenant, sont des joueurs qui sont déjà bien inscrits dans des clubs et qui sont titulaires. Dembélé titulaire à Dortmund, Sinama Pongol comment il s'appelle
Le
Talek étaient des joueurs qui ont été recrutés parce qu'ils faisaient des bonnes apparitions pour l'un à Saint-Étienne il me semble et pour l'autre j'ai oublié à Lorient
les deux
je sais plus quel.
Le Havre,
donc c'était des quand même ils avaient encore rien prouvé mais c'était des talents qu'on a vu voilà comme on va voir dans des moins de 17 ou des moins de 19. Là je te parle de joueurs dont un qui a 18 ans qui est titulaire Mbappé par exemple à Monaco qui joue la Ligue des Champions Dortmund il est titulaire sur le côté Dembélé Adrien Rabiot qui est presque titulaire au Paris Saint-Germain donc c'est quand même des joueurs qui sont jeunes et qui ont réussi à s'imposer ou en tout cas qui sont en voie d'imposition dans leur club donc c'est pas tout à fait pareil que ce qu'on a eu à la génération même s'ils ont été champions du monde des moins de
ouais mais
de moins de
on en parle souvent ici tout va dépendre de leur environnement. Tout va dépendre des personnes qui les entourent. On avait misé beaucoup d'espoir sur la génération Nasri, Ben Arfa, Benzema, la génération 87 jusqu'à 89. Les Menez, Benzema, Nasri, Gourcuff.
On dit la même chose. Là, je suis pas en train de te parler de Dembélé quand il était en moins de 17 ans en équipe de France ou d'Adrien Rabiot ou de Kylian Mbappé. Je te dis qu'aujourd'hui, là, l'âge qu'ils ont, 18 ans ou 21 ans ou 20 ans, ça dépend de quel joueur on parle. Ce sont des joueurs qui sont déjà presque confirmés, qui sont titulaires dans leur club respectif, ce qui n'était le cas d'aucun de ceux que tu as cités. Aucun.
Non mais là, on parle de potentiel. À l'époque, le potentiel des joueurs que je viens de te citer était extrêmement important. Et d'ailleurs, ils sont extrêmement talentueux, ces joueurs de foot-là, sauf qu'ils se sont égarés quelque part dans leur parcours parce que l'exigence du haut niveau, ils ne l'avaient pas encore bien intégré mentalement. Et tout va dépendre du moment, là, parmi tous les jeunes joueurs Dembélé, Mbappé, etc., ces joueurs-là, s'ils arrivent à prendre conscience du fait que pour devenir de très grands joueurs, il va falloir être sérieux, être rigoureux, être discipliné. Et s'ils n'arrivent pas à comprendre ça rapidement, ils seront aussi décevants que les Menez, les Nasri, etc.
Moi, je pense qu'ils ont justement l'image de cette génération qui s'est complètement perdu. Et avec l'entourage qu'ils ont maintenant, ils ont l'exemple, quoi. De dire, attention les gars, regardez tous ces joueurs qui sont partis, qui ont fait ça, qui ont fait ça. C'est pour ça que, par exemple, un Dembélé, il est parti peut-être à Dortmund aussi. Qu'un Kylian Mbappé, il reste à Monaco. Que ces joueurs-là ne vont pas se perdre tout de suite dans des clubs super grands où ils vont être remplaçants. Malheureusement, il y a quelque chose qui s'est passé avec le développement du foot et du foot business, où il y a toute une génération qui s'est perdue pour l'argent et ainsi de suite. Et eux, ils ont un exemple. Et je pense que ça va les aider à ne pas se perdre.
L'exemple le plus récent, Anthony Martial. Tu te rappelles, Anthony Martial, Monaco, que moi, personnellement, je trouvais bon, mais pas un crack. Contrairement à Mbappé, que moi, je pense un crack, mais c'est ce que je pense aujourd'hui.
Tu peux pas dire aujourd'hui que tel joueur est un crack. Bon, d'accord, joueur a un potentiel
alors,
de
crack. Je dis pas que c'est un crack. Par exemple, quand je voyais Anthony Martial, sur ses prises de balle, ses accélérations, je dis ah tiens, il y a quelque chose d'intéressant.
Gros potentiel, Martial.
Pour moi, Kylian Mbappé, que je vois aujourd'hui, qui est plus jeune que... Martial, avant de partir à Manchester United, pour moi, un potentiel encore plus fort que... mais c'est un avis. Encore plus fort que Martial. Martial est parti pour une très, très, très grosse somme. Déjà, première erreur pour moi. Mais bon, après, qu'est-ce que tu veux que Monaco fasse? On met un billet sur la table. Ils le vendent. On ne disait pas la même chose. Je ne sais pas si tu as quelques souvenirs. On ne disait pas la même chose de Martial de ce qu'on dit actuellement sur Mbappé ou d'autres joueurs. Apparemment, Mbappé est un joueur qui a la tête sur les... C'est ce qu'on dit. Hein. Moi, je ne le connais pas personnellement. La tête sur les épaules, qui aime le foot exactement comme Thierry Henry. En fait, Thierry Henry, tu sais, on disait que c'était quelqu'un qui non seulement il jouait au foot, il était sérieux à l'entraînement et en plus, il aime le foot, contrairement à d'autres. Il aime ce qu'il fait.
Tu veux vraiment que je te dise mon avis? C'est on dit ça simplement pour faire monter sa valeur marchande.
Ouais, mais
c'est
bon,
tout.
Après,
ce gars-là est plus ce gars-là est plus fiable.
Moi, en tout cas, moi, de ce que je vois, c'est ce qui transparaît. Alors que Rabiot, par exemple, il avait un souci clair. Rabiot, il avait un problème relationnel. Bah, parce que c'est sa mère qui le gère.
De tutelle.
Non, ouais. Mais c'est vrai, parce qu'en fait, son père, tu sais que son père est handicapé parce qu'il a eu un accident, je ne sais plus si c'est un AVC, en tout cas son père est paralysé et je crois qu'il ne peut même plus parler, donc il a connu ça pendant que Rabiot était encore dans les équipes de jeunes du Paris Saint-Germain, donc c'est sa mère qui a pris le relais et qui gère Rabiot. Il y a eu des problèmes de communication, etc., etc., mais c'est un gamin qui est talentueux et qui, si il est encadré, il n'y a pas de souci. Mais moi, je ne te dis pas qu'il est encadré.
Le problème, c'est l'encadrement.
Ouais, mais ça ne nous empêche pas de dire que c'est une génération talentueuse et qui, contrairement à tout ce que tu m'as cité, eux font des choses pour l'instant.
La génération qui suivait, la génération Benzema, Nasri, etc., c'était qui? C'était les, on va dire, Mvila, Ntep, voilà, des joueurs qui aussi étaient peut-être bourrés de talent et qui ont pris très vite la grosse tête. Enfin, Mvila, le boulard qu'il avait, quoi. Hein. Le gars, bon, sélectionné très rapidement en équipe de France, très jeune. On l'a vanté comme un taulier expérimenté avec une grande vision du jeu, un Xavi, en beaucoup plus jeune.
Oui, ce dégage.
Voilà ce qu'il est devenu. Ntep, alors, vous souvenez de la bagarre Ntep et Tovin en équipe de France Espoir pour savoir qui va tirer le pénalty? Ah non, c'est moi qui vais tirer le pénalty. Non, c'est moi. Bon, ok, je prends la balle, je la dégage en tribune. Ntep. Vous voyez moi, je suis pas sûr qu'on puisse dire. Il y a une génération qui s'est plantée, donc les générations suivantes s'en inspirent et ne commettent plus les mêmes erreurs.
Tu parles de joueurs, Ntep, là, par exemple, qui ont déjà, à leur âge, qui ont déjà un casier, quoi. Là, quand tu parles d'Ntep, il a déjà des dossiers derrière lui. Tu parles d'Mvila, il avait 40 000 casseroles derrière lui. Là, on te parle de joueurs qui, pour l'instant, on n'a pas entendu trop de trucs, à part Rabiot, sur la communication avec Laurent Blanc, où il était un peu parti au clash, mais je pense que c'était plus par rapport à sa com avec son entourage. Mais il a bien fait d'écouter Laurent Blanc, du coup, parce qu'il est resté, il s'est imposé, il a joué. Donc, Laurent Blanc avait raison, et lui a fait confiance, puisqu'il a re-signé, il a joué. Donc, mine de rien, quand t'écoutes, tu vois, ça marche. Je te dis qu'on pourrait faire une émission de 2 heures sur tous les futurs Zidane ou tous les futurs Thierry Henry. Je suis d'accord avec toi. Mais rien n'empêche de dire que pour l'instant, cette génération qu'on a aujourd'hui me semble, moi, plus sérieuse que ce qu'on avait avant. Ils font moins d'esclandres et tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent en équipe de France ou chez les jeunes, je n'ai pas de retour ou de choses qui ont été dites négativement sur eux, contrairement à tout ce que tu as cité là. Parce qu'ils avaient des casseroles derrière. Il y avait Griezmann qui s'en est bien sorti puisqu'il faisait partie de la sortie nocturne là Mais lui, bah, il a de la chance, il a été bien récupéré, il travaille et il a une très bonne com. Je suis d'accord avec Julien, c'est certainement celui qui a la meilleure com. Mais à un moment donné, voilà, si quelqu'un est talentueux, même si j'ai dit qu'il fallait faire attention et les protéger, on peut quand même dire qu'ils sont talentueux et qu'ils ont fait un bon match ou pas. Voilà, basta.
J'ai une petite question, parce que je viens de voir que Samuel Umtiti était titulaire. Il est le futur de qui?
Bah, Samuel Umtiti, c'est aussi un joueur qui est, voilà, qui est talentueux, qui est prometteur. Mais voilà, il y a plus de concurrence à son poste.
Oui, bon, ça, c'est, tu dis les choses avec tact, comme tu disais tout à l'heure.
Il n'est pas titulaire pour l'instant. C'est puisque, voilà.
Bon, messieurs, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. On va se retrouver tout de suite après sur Marmite FM 88.4 pour l'émission Parlons Sport. À tout de suite. De retour sur Marmite FM 88.4, nous sommes dans l'émission Parlons Sport avec Nouradine et notre invité du jour, Julien Camus, maître d'armes au sein de l'escrime club de Trappes. Eh bien, nous allons parler d'escrime, messieurs, puisque nous n'avons pas encore parlé de ce sport suite aux Jeux Olympiques qui ont été plutôt positifs pour l'équipe de France d'escrime, puisqu'on cette équipe de France nous a ramené 3 médailles, alors que c'était la Berizina à Londres en 2012, Julien.
Ouais, des bons jeux avec un titre de champion olympique pour l'EPEOM, vice-champion olympique pour l'équipe de Floréum, qui est pas passé très loin.
Ah ouais, vraiment pas loin.
Pas loin du tout. Et puis Gauthier Grumier qui fait troisième, quoi. Donc trois médailles, des places de quatrième avec Lorraine Rembi et surtout Manon Brunet avec un gros scandale au niveau de l'arbitrage russe et tout. Qui Manon a encore gagné une Coupe du Monde ce week-end en Chine. Elle est à sa deuxième épreuve de Coupe du Monde gagnée depuis le début de saison. Elle doit être passée numéro 2 mondiale là et elle prouve, voilà. Donc ouais, des très bons Jeux Olympiques qui malheureusement débouchent sur des gros problèmes avec les entraîneurs, car les deux entraîneurs qui avaient fait des médailles aux Jeux, Hugo Brie et Franck Boisdin, sont partis de la fédération. Hugo Brie est parti en Chine. Mmh. Franck Boisdin vient de partir au Japon. Mmh. Et est parti au Japon entraîner les équipes. Et avec une restructuration où on leur donne pas les moyens de faire ce qu'ils veulent.
C'est incroyable.
Et donc, ces entraîneurs, les autres fédérations ne se gênent pas pour aller les chercher, quoi. Aller les rattraper, quoi. Donc là, on va arriver. Des entraîneurs de pôle jeune. À Aix-en-Provence, donc Lionel Plumenay, qui était vice-champion olympique, champion olympique par équipe, qui a formé là l'équipe de France de Fleuret d'âme, c'est Astrid Guyard, Isaura Tibus, Jérôme Inempadjanga, Pauline Ranvier, et la 5 et la 6 sont tous passés au pôle d'Aix-en-Provence. Et là, on a appris la semaine dernière qu'ils décidaient de fermer le pôle d'Aix-en-Provence. Et Lionel Plumenay va repartir dans des bureaux parce que c'est un entraîneur qui a toujours fait à sa façon et qui n'a jamais été sous le joug de la politique fédérale. Et donc voilà. Et voilà où on en est. Et ça se passe mal.
Donc ça se passe mal avec Madame la Présidente Isabelle Saporato, c'est ça?
Isabelle Spenato-Lamour. Non, c'est pas avec la Présidente. La Présidente, elle gère sa présidence, elle gère sa candidature au CNOSF, là, donc elle est un peu en dehors de la fédération, justement. Et ça se passe mal avec la nouvelle DTN, qui est une ancienne escrimeuse, Laurence Modène. Ils étaient athlètes à la même époque, et je pense qu'il y a des retours de bâton de cette époque d'athlète ou voilà. Mais le problème, c'est qu'on peut pas gérer une fédération sur des rancœurs personnelles. Il faut enlever le personnel.
Alors, cette situation où on voit un exode des personnes qui détiennent le savoir, les maîtres d'armes expérimentés, on en parlait déjà beaucoup avant les Jeux Olympiques de Rio. Et là, on a le phénomène qui s'accroît. Est-ce que irrémédiablement, on va là vers la catastrophe là pour l'escrime français?
Je sais pas, parce qu'il y a quand même une culture de l'escrime et des entraîneurs. Il y en a plein. Il y a des nouveaux qui arriveront. Le problème, c'est qu'on perd nos têtes d'affiche, quoi. Mmh. Quelqu'un comme Hugo Brie. Il est arrivé en Chine au mois de après les Jeux. L'équipe de Chine était 22e équipe mondiale. Il y a eu trois Coupes du Monde par équipe, ainsi de suite. Sur la troisième Coupe du Monde qu'il fait avec l'équipe de Chine, il fait un podium, alors que l'équipe est 22e mondiale, avec des mecs qui n'étaient jamais sortis avant. C'est-à-dire que le gars a une vraie gestion, est un vrai coach et un vrai manager, que même les Chinois qui sont quand même... les Asiatiques qui ont une vision de vie, c'est pas des Français, quoi, c'est pas des Latins. Les Chinoises aussi. Et les Chinoises ont gagné... parce qu'ils s'occupent des filles et des garçons. Sur la dernière Coupe du Monde avant ce week-end, ils gagnent en individuel et en équipe. Et il est capable d'avoir des Chinoises qui lui sautent dans les bras, alors que c'est des gens qui ont beaucoup de respect normalement que l'entraîneur et tout. Les Chinois, là, ils leur diraient « Bon, allez, les gars, on va sauter du pont là pour faire une médaille. » Les mecs le suivent à 3000, comme ils avec l'équipe de France, quoi. Franck qui est arrivé, le fleuret féminin n'allait pas bien. Il a repris le fleuret. On fait une vice-champion olympique, champion du monde par équipe. Enzo a fait une médaille au championnat du monde, champion d'Europe. Les filles retrouvent des médailles régulièrement au championnat du monde, championnat d'Europe. Le gars fait tout. A un rendez-vous avec le ministère pour dire « Moi, je veux rester, il faut juste que j'ai le droit à ça, ça, ça. » Il sort du ministère. La Fédé ne l'a pas appuyé. Il sort du ministère, on lui dit non. À ce moment-là, il y a le Japon qui arrive dans la balance qui lui dit « Ta carte blanche, viens. » Tu fais ce que tu veux. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'à Tokyo, ce soit, tu gères comme tu veux, t'as ton budget, tu gères tout comme tu veux. Le gars, il dit, OK, je vais à Tokyo, on me laisse les mains libres. J'ai de compte à rendre à personne, sauf sur la piste. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, il me vire, ce qui est normal. alors que c'est pas ce qui se passe en France.
C'est uniquement un problème financier ou c'est un problème de choix.
C'est pas un problème financier. Je vais, bon, moi, je, pour rien cacher, je m'en vais à la fin de l'année là au Canada. Je viens d'être nommé responsable du fleuret masculin au Canada depuis le 1er octobre. Mmh. Cadet, junior, senior pour développer la politique du fleuret là-bas suite au stage que j'avais fait pour préparer Rio avec des athlètes et tout. Ils m'ont rappelé après. C'est que là-bas, on a les mains libres, mais c'est... en France, par exemple, on... pour travailler dans un pôle ou travailler avec les équipes de France, il faut être fonctionnaire. Donc, c'est-à-dire qu'on a notre salaire...
Diplôme d'État ?
Alors, pas un diplôme d'État. Il faut avoir le professorat de sport pour pouvoir être au ministère et après être détaché par le ministère sur une fédération. Mais donc, on a un salaire fixe avec... Voilà, et le jour où ça ne marche plus, on s'en va. Et on est muté dans une DD ou un truc. Là-bas, au Canada, j'ai une politique sportive, j'ai mon budget qui fait en fonction de mes résultats et tout. Mmh. Et du jour, si ça ne marche plus, on me dit, bah voilà, merci, au revoir. Par contre, si ça marche... On me dit, bah voilà, ça marche, donc tu as tes primes qui fonctionnent en fonction de ça. Par contre, c'est toute liberté pour l'entraîneur. C'est-à-dire que je fais mes choix sportifs, je gère ma politique sportive dans le respect de la fédération, en disant au DTN et au président, voilà ce que je vais faire, voilà pourquoi je mets tel jeune là, voilà pourquoi je mets ça. Et qu'ils me disent, ok, fais. Alors qu'en France, un entraîneur, il va dire, dans mon équipe, je veux telle personne. Ils vont le dire, bah non, parce qu'il est trop jeune, bah tu vois, il faudrait peut-être que tu mettes lui, parce que lui, il vient de tel club, et tout ça. Et en fait, il fait pas ses choix, il fait pas ce qu'il veut. Donc, il y a un moment, l'entraîneur, il en a marre, quoi. Là, si on a envie de mettre, par exemple, là, nous, on prépare les championnats panaméricains, donc c'est comme c'est l'équivalent des championnats d'Europe chez les seniors qui vont être à Montréal. Je suis en train de former mon équipe, j'ai mis un gamin de 16 ans, je le fais monter en équipe senior. Alors qu'il y a d'autres seniors qui sont devant. Pourquoi ? Parce que je veux préparer 2020. En 2020, il n'y aura pas les jeux de... Il y aura pas... Au jeu de Tokyo, il n'y a pas d'équipe pour le Florium. 2024, oui. Dans 2024, ce gamin-là aura 24 ans. Il sera... On parlait de leader. Ce gamin est un vrai leader. C'est-à-dire que même dans l'équipe, il parle maintenant à 16 ans. Et voilà. Et en 2024, je veux qu'il soit là avec celui qui est en tête en ce moment. Il ne sera peut-être plus là. Donc voilà, il apprend avec lui. Et il est que sixième au classement, mais personne à la Fédé du Canada m'a dit, mais non, il faut prendre tel gars. C'est-à-dire, ok, fais ton choix, ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, par contre, il faudra en subir les conséquences. Et le rôle de l'entraîneur, c'est d'assumer ses choix. Ouais, alors qu'en France, on est souvent obligé d'assumer des choix politiques. Et c'est le problème. C'est pour ça que des mecs qui ont été sportifs de haut niveau, qui ont été champions olympiques comme, ou médaillés olympiques comme Franck et Hugues, on en marre d'assumer des choses qui sont des choix politiques. Et on a bien vu avec Hugues dans toutes les retombées qu'il y a eu dans les journaux et tout ça. Voilà, c'était son ras-le-bol. C'est que oui, il fait des choses, oui, il se trompe, mais il veut assumer ses choix. Et je pense que les entraîneurs en ont marre d'assumer des choix politiques.
Alors, petite question par rapport à l'arbitrage, parce que j'aimerais bien qu'on revienne à ce qui s'est passé l'été dernier. Quand on regarde, bon, on ne connaît pas forcément toutes les règles de cette discipline, et on s'aperçoit que les commentateurs non plus, en plus, enfin, parfois il y a le recours à la vidéo, hein, c'est ouais, ça, sur certaines ça. Actions.
Alors, on va expliquer.
Est-ce qu'on peut raconter l'histoire pour.
En fait, voilà, il y a Manon Brunet qui tire sur la numéro 1 mondiale. Donc, Manon était encore junior hein, l'année dernière, championne du monde junior, enfin, vice-championne du monde junior deux fois de suite à chaque fois sur une autre française et ainsi de suite. On lui promettait un grand avenir. Mais jamais de grands résultats. Au jeu, elle tombe sur Egorian, numéro 1 mondial. Et donc, elle mène à 14 et elle fait ce qu'on appelle une attaque sur la préparation. Voilà. Le sable, comme au fleuret, il y a des règles du jeu. C'est-à-dire que l'arbitre va définir qui a attaqué, si c'est défendu ou pas et tout ça. Et si on n'est pas d'accord, parce qu'il y a quand même une certaine vitesse, on peut demander la vidéo. Il y a un arbitre vidéo, on a le droit à deux vidéos pendant le match. Si on gagne sa vidéo, ça continue, ainsi de suite. Sauf qu'il faut savoir qu'au jeu, les arbitres sont des arbitres internationaux qui sont désignés par la fédération internationale. Au sabre, le responsable de la des arbitres est un russe. Était un russe parce qu'il a été viré depuis. Donc c'est-à-dire que pendant toute la saison, il y a un mec, un grand Manitou, qui dit « Ok, moi je choisirai les 8 arbitres qui iront aux Jeux Olympiques. » Donc même pour un arbitre aller aux Jeux Olympiques, c'est une aventure incroyable, quoi. Donc, quelque part, il y a un moment où le gars, il met des arbitres qui sont en gros à sa main. Il faut savoir que la Fédération Internationale d'Escrime est dirigée par un monsieur qui s'appelle Alisher Ousmanov. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est celui qui a Gazprom. qui détient 30% d'Arsenal et du club de foot d'Arsenal et tout ça, et qui met beaucoup d'argent sur la fédération.
De Chelsea.
Non, Arsenal.
Gazprom. Ah, c'est Arsenal, gars.
Arsenal.
Ah ouais, d'accord.
Et qui met beaucoup d'argent qui met beaucoup d'argent dessus. Les arbitres, il y a des arbitres internationaux qui vivent de l'arbitrage international. Donc voilà, donc il y a un moment, faut pas
faut protéger
plus ou moins. Donc là, il y a eu un gros coup de pied infomiliaire au niveau de l'arbitrage. Tous les responsables de l'arbitrage jusqu'au jeu de Rio ont tous été virés. Donc il y a un renouveau. On va voir ce qui se passe, mais voilà, mais Manon, oui, c'est un vrai scandale. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien du tout. Et voilà, il faut juste que la France.
Parce que pour terminer sur cette histoire, c'est sur une touche.
Ouais, elle perd une médaille parce que normalement elle est en finale olympique et derrière elle perd la troisième place sur un match normal. Enfin voilà, elle fait
sur
quatre.
Sur une touche qui aurait dû lui être donnée.
Ouais, elle. Alors après, tout le monde dit oui, elle est jeune, elle aura. Mais je pense que ce jour-là, une médaille olympique. De toute façon, on ne refera pas l'histoire. Est-ce qu'elle aurait fait la saison qu'elle est en train de faire maintenant? Est-ce que... On ne sait pas. Il y a des gros problèmes d'arbitrage. Il y a... on peut parler... voilà, on parle du foot. Je pense qu'en escrime, il y a des grosses nations, des petites nations. Et que, de temps en temps, c'est bien d'être une grosse nation pour être arbitré.
Oh, on avait les mêmes cas en patinage artistique.
En boxe aussi.
En boxe. Ouais.
Voilà.
Donc, ma question, c'est juste de savoir s'il y a une grande part d'interprétation qui est offerte à l'arbitre, ou alors si là, durant les Jeux Olympiques, c'était flagrant, l'arbitre...
Là, non, mais là, celle-là, elle est flagrante. Elle est vraiment flagrante, tout le monde le sait, tout le monde l'a dit. Enfin, voilà. Après, notre sport, c'est aussi une adaptation. On tire à trois, quoi. On a un adversaire, un arbitre. On sait qu'un arbitre allemand va arbitrer... Bah, là, c'est un peu technique, va arbitrer avec du fer. Donc, il faut, si on veut avoir le point, plus ou moins prendre le fer. L'arbitre italien va plutôt donner une sensation de jambe. L'arbitre russe va plutôt donner une sensation de bras. Donc, c'est à nous de nous adapter aussi. Ça fait partie du jeu. Et puis, il y a des fois, c'est donné dans un sens, des fois dans un autre sens. Enfin, je pense que ça s'équilibre en fin de compte. Là, celle-là, elle est énorme. C'est à un moment des jeux. Voilà. Est-ce que maintenant, à un certain moment, dans la qualification, Manon, elle a pas gagné un match aussi sur une erreur d'arbitrage qui lui a permis de se qualifier à ça et qui a permis à notre fille de pas y aller? Enfin, il y a plein de choses comme ça qui... Je dis pas que ça s'est passé, mais il y a plein de choses qui se passent. C'est un fait. C'est arrivé sur les Jeux. C'est un grand événement pour une médaille contre une Française, donc on en a beaucoup parlé. Ça fait partie de notre sport. Je pense qu'elle a plutôt bien rebondi et je pense que si tout se passe bien pour elle, on la reverra très bientôt, quoi.
Bon, alors sur ces équipes de France d'escrime, là, vous l'avez dit, Julien Camus, les Sabreuses sont en forme. Hein,
ouais.
Avec donc Manon Brunet qui s'est imposée deux fois. Il y a aussi une victoire de Cécilia Berder.
Cécilia Berder, ce week-end, donc elles étaient en Chine. Manon Brunet gagne sur une autre Française, Sarah Balzer, une jeune Française aussi qui fait deuxième, premier podium en Coupe du Monde. Les filles font deuxième par équipe. Franchement, là, au Sabre, il y a un gros travail qui a été fait chez les jeunes avec un jeune, l'entraîneur qui a suivi cette génération, qui est un jeune maître d'armes, enfin, qui est un jeune entraîneur, là, Cyril Verbraeckel, et avec qui a au-dessus de lui Jean-Philippe Dorel, ça fait un moment qu'il travaille pour le Sabre en France, et ils font un boulot assez exceptionnel.
Bon, alors ça sent bon la médaille pour Tokyo dans 3 ans. Tu notes, Noradine. est-ce que dans d'autres disciplines, il y a aussi un gros potentiel là, des jeunes qui s'affirment?
Alors là, on est un peu en attente de l'épée, où il y a Yannick Borel qui continue son petit bonhomme de chemin, qui est numéro 2 mondial et ainsi de suite. Chez les jeunes, on a du mal à voir ce qui va se passer. Je pense que Hugues a laissé un héritage qui est très très compliqué à suivre, c'est-à-dire que c'était quand même un gars, voilà, ces tireurs l'adoraient, quoi, donc il y a quelque chose à faire. Je pense que ça va se passer parce qu'il y a un réel potentiel. Fleuret dame, c'est l'adjoint Émeric Clos qui a repris la place de Franck. Ça se passe plutôt pas mal parce que les garçons ont gagné la Coupe du Monde à Bonn. On fait deuxième à la Coupe du Monde du Caire. En individuel, c'est un peu plus compliqué, mais ça va venir. Les filles, il y a Isaora Tibus qui a gagné la Coupe du Monde d'Alger. Donc, le travail va se poursuivre, mais pareil, il faut. Enfin, voilà, là, il y a les premières compétitions où Franck, il coach en face aussi, quoi. Il faut savoir que les Français, ils arrivent, ils ont les Françaises ont Franck Boisdin qui est en face, quoi, l'entraîneur. Donc bon, une fois que ça va être passé, voilà, je pense que le boulot est dans la continuité, et à l'épée aussi, ça va être dans la continuité. On est en année post-olympique, faut voir ce que ça va donner, mais enfin, c'est sûr que deux gars comme ça, de vrais entraîneurs, de vrais managers surtout, qui partent.
Ça fait mal.
Pour la formation des jeunes entraîneurs qui arrivent sur l'INSEP, ça fait du mal, quoi. C'est vrai que quand on avait. Enfin, moi j'en parle parce que quand Franck, je faisais les stages avec Franck ou ainsi de suite, bah voilà, on écoute le mec. On a juste envie de l'écouter. Emeric, je pense qu'il arrivera à prendre cette place-là relativement facilement.
Bon, on va remonter aux origines avec vous, Julien Camus. D'où vous est venue cette passion pour l'escrime ? Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, voilà, l'escrime...
Zorro.
J'allais dire, c'est le cliché, c'est Zorro.
Zorro, mais c'est carrément ça, quoi. Et puis après, il y a eu les Jeux Olympiques en 88, de Séoul, où j'ai vu et j'ai dit à ma mère, je vais faire de l'escrime. Voilà, après j'étais un tireur lambda, et voilà. Et un jour, mon entraîneur m'a dit, j'ai besoin de monde pour m'occuper des petits, est-ce que ça te dit ? Ouais, j'ai commencé à aimer ça... j'ai passé mon BE, j'ai eu la chance de pouvoir
brevet d'état. Oui.
Ouais, mon brevet d'état, la chance de pouvoir être repéré entre guillemets par un ancien entraîneur de l'équipe de France, Christian Martin, qui m'a dit OK, viens, on va bosser plus, qui m'a fait rencontrer Lionel Plunaille, Franck Boisdin, j'ai bossé avec eux. J'ai eu la chance d'arriver sur le club de Trappes il y a 15 ans avec des jeunes qui avaient envie, des grands qui avaient envie, et on a développé un super truc sur toute la ville, et puis voilà, quoi. Et puis on se retrouve avec des médaillés aux Europes, des sélections au championnat du monde, des gars qui partent au jeu, et puis voilà.
Toujours dans le département à Trappes ? Vous avez commencé ici
Alors non, moi j'étais du Loiret, d'une petite commune du Loiret. En fait, c'est quand j'ai passé mon brevet d'état à Châtenay-Malabry, au centre national de formation, que l'escrime club de Trappes cherchait un maître d'armes à cette époque-là. J'ai postulé. Et puis ça s'est fait comme ça, et voilà, il y a 15 ans. Ouais.
Donc on le rappelle, il y a trois armes qu'on maniait à l'escrime, le sabre, l'épée, le fleuret. Donc vous êtes spécialiste du fleuret.
Nous, on est spécialiste fleuret, voilà.
C'est quoi la différence entre
L'épée, c'est Laura Flessel. Le premier qui touche, il n'y a pas de règle du jeu. C'est le premier qui touche, on aura touché partout.
Il marque,
voilà, c'est le vrai duel. Si les deux touchent en même temps, les deux lampes s'allument, donc un point chacun. Le sabre, c'est l'arme de tranchant de cavalerie. En fait, on touche pas avec la pointe, on va toucher avec le tranchant de la lame, tout ce qui est au-dessus de la ceinture. Par contre, il y a des règles de priorité comme au fleuret, où c'est l'attaquant qui prend une priorité, il faut se défendre et attaquer, ainsi de suite. Et au fleuret, on touche avec la pointe que le torse et le dos. Et toujours avec ces règles de priorité, ce qui rend l'arme un peu plus compliquée, quoi.
Alors, comment est-ce que vous pourriez... définir là les points forts de cette équipe à Trappes en ce moment.
Les points forts, c'est que c'est une famille. Enfin voilà, là on est ce week-end, on était à Grenoble pour la fin du championnat d'escrime par équipe, parce qu'il y a des équipes. On est descendu l'année dernière de la plus haute division en National 2, donc la deuxième division nationale. On finit l'année numéro 1 du championnat. Malheureusement, on n'est pas sûr de monter parce que, comme au rugby, ça donne juste le droit d'être classé pour une phase finale qui aura lieu à Nantes le 28 mai. On sera tête de série numéro 1. Il faut qu'on finisse dans les trois premiers pour pouvoir aller au championnat de France, pour pouvoir remonter en National 1. Donc, on va prendre les numéros 8 du classement et puis après en tableau direct. Donc voilà. Mais l'escrime club de Trappes, c'est une vraie famille, quoi. C'est-à-dire que l'équipe, c'est Jean-Brice Charrière, ça fait 17 ans qu'il est au club. Cédric Henkené, qui a 23 ans, il a commencé l'escrime à 6 ans à Trappes. Et les deux autres, Benoît Journet, Yann Marpeau, hier on en discutait, ça fait 10 et 11 ans qu'ils sont au club.
Comment on s'entraîne quand on est en N2, donc on joue quand même à un niveau élevé sur le plan national? Comment on s'entraîne?
On s'entraîne 5 heures d'escrime par semaine à la salle à Trappes. Et puis après, on a du physique qu'on va faire à côté, plus des leçons individuelles qui sont données à côté. Donc en gros, il y a 5 heures minimum d'escrime, plus une ou deux heures de physique à faire à côté. On s'entraîne 7 heures, sachant que par exemple, Benoît, il est kiné à Saint-Quentin-en-Yvelines. JB, Jean-Brice Charrière, il est facteur sur Versailles. Cédric fait son master 2 et là, il a commencé à travailler dans l'entreprise. Donc c'est un vrai deuxième temps de travail à côté, quoi.
Comment ils ont... alors, vous leur avez déjà annoncé le départ, là.
En fait, il y a une décision qui a été quand on m'a proposé, au mois de septembre, on m'a appelé. J'ai déjà parlé avec ma femme et ainsi de suite. Et après, j'en ai parlé avec les gars qui m'ont tous dit écoute, on peut pas te retenir. On sait ce que tu as fait pour nous et c'est une super aventure pour toi. Tu deviens entraîneur national. Tu vas avoir des moyens que tu n'as pas ici. Va au bout de ton aventure.
Faut foncer, quoi.
Ouais, va au bout de ton aventure. Et puis. Oublie pas de prendre une troisième chambre dans la nouvelle maison pour qu'on puisse venir de temps en temps.
Pour accueillir à tous les, hein, voilà, les 90 licenciés de trappe.
C'est ça.
Alors avec Cédric, vous étiez à un moment donné en charge de la sélection du Cameroun, c'est ça ?
C'est ça, en fait, je m'occupais de lui et vu que c'était le seul athlète qui pouvait aller aux Jeux pour le Cameroun, on m'a nommé responsable du Cameroun, donc chose que j'ai arrêté.
Ça n'a pas fait long feu,
ouais,
finalement.
Si, je continuais à l'entraîner et tout, mais j'ai décidé d'arrêter cette... responsabilité du Cameroun depuis que je suis pour le Canada. Mais je continue, vu que je suis toujours à l'Escrime Club de Trappe, pour un an, j'avais demandé de pouvoir finir ma saison parce qu'au mois d'octobre, retrouver un maître d'armes et ainsi de suite, alors que la saison était commencée pour nous depuis septembre, d'un commun accord avec le Canada. Pour l'instant, jusqu'en juin, je faisais les allers-retours et je continuais à entraîner le club et justement l'équipe senior, je gardais la totalité de l'entraînement de l'équipe senior. Donc Cédric, je continue à l'entraîner. Je suis plus responsable du Cameroun, il y a une autre personne qui doit être nommée, mais il continue à s'entraîner 5 heures par semaine avec moi, je lui donne les leçons et tout, juste sur les compétitions internationales, je pourrais pas être là avec lui.
Sur le bord, avec
lui. Je serais en tribune un peu loin à regarder, mais je serais pas derrière lui. Mais il sera bien suivi.
Langage des signes pour pas, ça,
ouais,
ça marche
ça.
Bien. Pour transmettre des informations.
Ouais, exactement.
Bon bah écoutez, cette heure sportive s'achève. Merci Julien Camus. Bah écoutez, si vous voulez revenir ici pour parler de cette montée en N1, on a bien compris, c'est le 28 mai. D'accord, on va suivre ça de près. Merci Nouradine, merci tout le monde. Donc c'était Parlons Sport, on se retrouve lundi prochain, 17h-18h sur Marmite FM 88.4. Bonne soirée, bonne semaine à tous.
Tous les lundis de 17h à 18h, débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4. Parlons Sport. Parlons Sport, une émission animée par Gilles Bombard.